débat du jour.
Bonsoir, l'émission de ce soir vous emmène à New York où se réunit l'Assemblée Générale des Nations Unies cette semaine. C'est la chef du service international de RFI qui mène le débat. On retrouve Anne Corpé.
Bonsoir et bienvenue à l'écoute du débat sur RFI. La COP21 se déroule à Paris en décembre prochain. Un sommet présenté comme celui de la dernière chance. La francophonie se sent particulièrement engagée dans cette conférence cruciale. Elle veut y trouver sa place. Elle a choisi la jeunesse pour porter sa parole. Avec cette initiative, J'ai à cœur ma planète, lancée en mars dernier, il s'agit de porter les préoccupations, les idées, les solutions de la jeunesse qui a défini 6 priorités pour agir face au réchauffement climatique. La secrétaire générale de la francophonie est ici à New York à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU pour recevoir les idées de cette jeunesse francophone. A-t-elle un rôle spécifique à jouer dans la négociation? La francophonie peut-elle peser de manière unie sur les discussions? Quel rôle pour la francophonie dans la conférence climat de Paris? On en parle avec nos invités réunis ce soir à New York. Michaël Jean, secrétaire général de la francophonie, bonsoir.
Bonsoir.
Céline Nafo, porte-parole des 54 pays d'Afrique à la COP21. À 34 ans, vous êtes aussi le plus jeune négociateur de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques. Bonsoir.
Bonsoir Anne.
Et deux jeunes francophones engagés dans cette campagne, J'ai à cœur ma planète, sont également avec nous. Claire Chitecat, franco-suisse, vous avez 29 ans. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Yannick Naré, qui nous vient du Burkina Faso, vous avez 32 ans. Bonsoir.
Bonsoir Anne.
Alors Michaël Jean, secrétaire général de la francophonie, commençons avec vous. Quel lien, tout d'abord, entre réchauffement climatique, la francophonie et la jeunesse?
Il faut d'abord dire que la francophonie, sur les 5 continents, représente 40% des pays dans le monde. Et c'est aussi le tiers des parties prenantes à la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques. Donc nous avons certainement une voix à porter. Et ce que nous souhaitons, c'est mobiliser vraiment tous ces pays-là vers des engagements, des accords importants. Et puis, c'est cultiver aussi cette ambition qui doit être collective, parce que il faut vraiment un accord ambitieux, pas un accord minimaliste. Et je sens que, compte tenu du fait aussi que dans la francophonie, nous pouvons témoigner de tous les effets dévastateurs du réchauffement climatique, nous sommes là aussi pour arriver avec des solutions et pour donner leur juste et dire, voilà, il est urgent, il faut vraiment qu'on y arrive.
Céline Nafo, est-ce que l'Afrique parle d'une seule voix dans ce débat?
Oui, les 54 pays africains parlent d'une seule voix. Et ce n'est pas étonnant parce que les enjeux vont bien au-delà de chacun de nos pays. L'Afrique est le continent le plus touché, l'Afrique est le continent le plus vulnérable. Les changements climatiques vont avoir un impact essentiel sur la trajectoire de développement du continent. Et donc, c'est une mobilisation qui est sans précédent.
Alors Yannick, vous êtes un jeune de Burkina, vous vous sentez concerné par ce débat sur le climat?
Oui, tout à fait, je suis pertinemment très concerné donc par ce débat. Venant d'un pays sahélien, enclavé comme le Burkina Faso, il y a tout lieu donc de s'intéresser à ce débat qui se passe actuellement.
Claire, vous êtes franco-suisse, vous aussi vous êtes engagée?
Oui, les changements climatiques, c'est pas quelque chose dans le futur, c'est aussi quelque chose qu'on peut voir déjà tout de suite. Il y a des effets qu'on constate dans tous les pays du monde, c'est pas particulier aux pays en développement, c'est pas particulier aux pays développés. Des inondations, le niveau des mers qui monte, que ce soit des problèmes d'agriculture au Sahel ou que ce soit des problèmes de sécheresse pendant une canicule à Paris, ça touche tout le monde, ça touche partout et c'est maintenant.
Michaël Jean, la francophonie, c'est un espace très contrasté. Il y a des pays de forêt, il y a des pays désertiques, des pays où il fait très froid aussi, comme au Québec. Alors, est-ce qu'il est possible d'avoir une position commune de tous ces pays?
Je pense que c'est une façon de mesurer sous différents angles l'impact des changements climatiques. Et c'est surtout, je dirais, la nécessité de faire corps et de se dire que dans un esprit solidaire, nous devons avancer ensemble et voir à ce que notre voix soit entendue et bien sûr dans cette langue que nous parlons. Donc pour la francophonie, ce qui est essentiel, c'est de pouvoir accompagner aussi les pays de manière très technique et très concrète, des notes de décryptage, des éléments aussi pour mieux négocier, une capacité de comprendre les enjeux et d'avancer aussi avec ses propositions et ses perspectives. Et nous avons l'Institut de la francophonie pour le développement durable qui fait ce travail et qui tient un peu partout des ateliers régionaux pour faire justement bloc. J'espère que nous puissions arriver à une position commune, mais on sait très bien aussi que les positions sont parfois assez contrastées, hein, dépendamment des intérêts. Mais quand même, je trouve qu'on a quand même de bonnes raisons d'espérer. J'ai le sentiment qu'il y a une plus grande prise de conscience de l'urgence d'agir.
Sénine Afo, vous suivez l'avancée des négociations de très près. Alors, l'appui d'une organisation comme la francophonie, ça pèse dans les discussions ?
Oui, ça pèse, comme madame la secrétaire exécutive l'a rappelé. La francophonie, c'est 77 pays membres. C'est quand même un peu plus d'un tiers des pays membres de la Convention climat. Ça offre une plateforme exceptionnelle, parce qu'il y a quand même un capital politique et diplomatique, et ça permet d'être un espace complémentaire pour justement avoir un certain nombre de discussions clés. C'est comme un microcosme de la Convention. Donc je pense que il faut en profiter, et j'espère que son Excellence le Président Macky Sall va justement user de sa présidence pour pouvoir aider pour que cette contribution diplomatique et politique puisse se faire. Également, c'est vrai, l'Institut de la Francophonie pour le Développement Durable assiste les négociateurs. Pendant longtemps, d'ailleurs, la traduction simultanée français-anglais a été assurée grâce à un soutien de la francophonie, les notes de décryptage, le guide pour les négociateurs qui est fait chaque année. Nous-mêmes contribuons à l'élaboration de ce guide. Certains pays ont bénéficié d'un renforcement de capacité pour les négociateurs. J'ai moi-même eu la chance d'être formateur en RDC, au Congo, au Bénin.
Du coup, les francophones seraient mieux formés que les anglophones, par exemple, en Afrique ?
Je pense qu'ils commencent. Malheureusement, les négociations sont en anglais, donc on commence quand même avec un retard. Donc toute opportunité pour pouvoir se mettre à niveau, je pense, est la bienvenue.
Et je pense que la bonne nouvelle aussi, Séni, c'est que maintenant nous sommes 80 dans la francophonie, 80 États et gouvernements membres. Donc encore
autant
un espace qui prend davantage de place avec des pays d'Amérique latine qui se joignent aussi à cet espace. Et vous savez, la question de la langue, elle n'est pas accessoire. Hein. C'est une question de démocratie internationale. On aurait un déficit vraiment de perspective si on n'arrivait pas à faire en sorte que toutes les voix soient entendues, y compris celles des francophones. Y aller sur une langue unique, c'est finalement se priver de ce que tous ces autres pays ont à dire et à apporter aussi comme solution.
Alors, cette initiative « J'ai à cœur ma planète » est une initiative de la francophonie, mais qui vise la jeunesse. Michaël Jean, pourquoi faire participer les jeunes ?
Parce que c'est essentiel. Parce qu'au fait, voyez, les jeunes héritent d'un gâchis. D'un très grand gâchis. Compte tenu de toutes ces décisions que nous avons prises ou que nous n'avons pas prises et qui auront des conséquences irréversibles pour cette génération-là, qui apporte de son énergie, qui apporte de sa volonté de faire sa marque, avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup d'énergie. Et je préférais les laisser en parler parce que ça a été formidable de les voir répondre. Plus de 10 000 quand même ont répondu.
Alors oui, par exemple Claire, vous vous sentez plutôt victime des agissements de vos irresponsables aînés ou au contraire acteurs responsables et futurs gestionnaires d'un patrimoine commun ?
Moi, j'ai envie de dire les deux, quelque part, parce qu'effectivement, on hérite d'une planète, on hérite d'un État et de ce que nos aînés ont fait ou ont pas fait. Mais ça repose aussi sur nous, maintenant, de faire ou de ne pas faire.
Yannick ?
Oui, tout à fait. Comme le disait un penseur, on n'hérite pas de la Terre, et on la lègue donc à la postérité. Donc j'ai dit que nous subissons d'une part les effets dévastateurs donc des agissements de nos aînés, mais aussi il y a une certaine urgence pour les jeunes d'intervenir pour changer la donne pour un avenir proche.
Et vous avez l'impression que vos camarades, la jeunesse, est concernée, globalement consciente des enjeux ?
Oui, tout à fait. Que si on se fie donc à cette consultation que son Excellence Madame Michaël Jean a lancée, il y a eu plus de 10 000 jeunes qui ont répondu donc dans les 5 continents. Donc ça dénote d'un certain intérêt de la jeunesse francophone pour les questions climatiques et de développement durable.
Claire, autour de vous, les jeunes parlent de la question du climat ?
Oui, tout à fait. Et j'oserais même dire, ils en parlent, ils connaissent chacun des situations différentes, mais il y a des grands points qui émergent et qu'on peut retrouver à toute cette jeunesse dans sa diversité, que ce soit une volonté d'être associé à la prise de décision, que ce soit une volonté d'avoir un modèle de développement qui soit plus harmonieux, que ce soit un besoin d'information aussi, parce que la jeunesse a beau être volontaire, elle a envie d'en savoir plus. au-delà des petits détails, des situations particulières, il y a des idées globales qui émergent.
Céline Afo, l'Afrique est au premier rang, vous l'avez dit, des victimes du réchauffement climatique. Est-ce qu'elle est aussi prête à prendre des responsabilités?
Oui, elle est prête à le faire. Je pense que quand on regarde déjà les contributions des États africains, il y a pas longtemps, on a le Gabon, on a l'Afrique du Sud il y a quelques jours, le Maroc, l'Éthiopie, des contributions qui sont assez importantes. L'Algérie s'est engagée à avoir près de 20% de son mix énergétique dans le renouvelable. C'est important. L'Éthiopie, vous l'avez dit, c'est la cible au départ était d'être une économie neutre en carbone à partir de 2025. C'était la volonté de feu le Premier ministre Zenawi. Deux grandes initiatives sont soutenues par les chefs d'État africains. Une initiative sur l'accélération du déploiement des énergies renouvelables, un minimum de 10 gigawatts en 2020, et les chefs d'État considèrent une cible de 300 gigawatts pour l'horizon 2030, une initiative également sur l'adaptation, parce que les coûts de l'adaptation en Afrique sont déjà très, très, très importants. On parle de 7 à 15 milliards de dollars par an pour aujourd'hui des financements qui peinent à dépasser 1 à 2 milliards. Donc il y a une initiative très forte sur l'adaptation. Comment améliorer le système d'observation? Comment améliorer les politiques, enfin les cadres réglementaires? Comment améliorer l'adaptation dans les différents secteurs, eau, agriculture, et puis dernièrement, la question du financement.
Et j'ai l'impression aussi que Michael, ce qu'il faut saluer, c'est que probablement que les populations du continent africain savent beaucoup mieux que n'importe quel autre ce que cela représente, que ces effets dévastateurs du réchauffement climatique. On aura de plus en plus de migrants climatiques. Des gens forcés de quitter leur terre, quitter leur lieu, parce que plus possible de cultiver, plus possible d'avoir accès à l'eau. Et ça, je trouve que venant d'un continent qui est finalement celui qui produit le moins de gaz à effet de serre, n'est-ce pas? C'est quoi, à peu près
4%? 2,3.
2,3.
2,3%.
Et qui d'emblée répond en disant, écoutez, nous sommes les mieux placés pour vous dire à quel point il y a urgence. Et il faut avancer avec ce sentiment d'urgence.
Michael Jean, parmi les 6 priorités définies par les jeunes francophones dans le cadre de cette opération J'ai à cœur ma planète, figure le soutien à la création d'emplois verts. Que peut faire la francophonie pour pousser les entreprises à innover?
J'ai beaucoup aimé qu'ils disent cela, parce que sur la stratégie économique pour la francophonie, nous avons décidé de mettre l'accent justement sur le soutien à l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, la formation professionnelle, le soutien à l'innovation, avec une finalité, l'emploi. La création d'emplois. Et je crois que les jeunes le disent clairement, ils savent fort bien que les décisions qui sont à prendre ont à voir, oui, à des contributions, bien sûr, mais aussi à des choix dans la façon de produire, comment on produit et comment on consomme. Et ça, c'est essentiel. Ça veut dire changer complètement de logique, changement de paradigme. Et quand les jeunes disent il faut davantage d'emplois verts, c'est parce que ça témoigne tout à fait de leur niveau de conscience. Et ils sont prêts à franchir ce cap. Et c'est très, très encourageant.
Claire, justement, vous étudiez dans ce domaine, vous étudiez sur le climat. Alors, quel métier vous imaginez? Un métier vert?
Moi, je prendrais bien la place de Ceni, personnellement, mais... Mais oui, non, c'est des métiers qui sont pleins d'avenir. C'est des métiers qui n'existaient pas il y a une dizaine d'années, qui se créent maintenant. Il y a beaucoup de choses qui se font au niveau des entreprises. On parlait de responsabilité sociale des entreprises, mais il y a de plus en plus de grandes entreprises qui se décident à mettre en place des bilans carbone de leur société, par exemple. C'est une branche en pleine ébullition.
Yannick, au Burkina, emploi vert, ça correspond à une réalité?
Justement, il faut dire que les politiques publiques actuellement, c'est d'encourager les jeunes à entreprendre dans le secteur, le secteur vert, disons. Et on sent un certain soutien à l'endroit des jeunes, surtout en matière de financement, car on sait que le plus gros frein pour l'entrepreneuriat des jeunes, c'est le financement. Et donc, et moi-même en tant que communicant, j'ai essayé d'imaginer comment je peux contribuer donc à un certain changement de mentalité. Et avec des amis, nous avons mis en place une association qui se nomme Association pour le développement des initiatives communautaires, ADIC. C'est dit que nous voulons encourager à travers une dynamique de communication le changement de comportement pour la prise en compte des intérêts des générations futures.
Céline Afo, vous avez évoqué cet été dans la presse votre crainte de voir la COP 21 aboutir sur un accord bateau. Qu'est-ce que ça signifie ?
Certainement, quand on négocie à 195 dans les Nations Unies, et je pense que Madame la secrétaire exécutive l'a rappelé, il y a un risque qu'on se retrouve autour du plus petit dénominateur commun. Et donc, pour l'Afrique, et ça peut être peut-être technique, mais nous sommes en train de regarder chacun des éléments de l'accord pour qu'on puisse avoir un minimum de mécanismes qui permettent à terme qu'on augmente l'ambition. Nous savons qu'en faisant l'évaluation, par exemple, des contributions, déjà, nous avons 4 gigatonnes de réduction et il faut aller chercher encore 14.
De gaz à effet de serre.
Voilà, il faut aller chercher 14 gigatonnes de réduction. Et justement, les initiatives que prend l'Afrique, notamment l'initiative sur les énergies renouvelables, ce que la France a appelé également l'agenda des solutions, et un certain nombre de mécanismes, par exemple, avoir une revue à tous les 5 ans et qu'on puisse réfléchir au système financier international et comment est-ce qu'on peut mobiliser des nouvelles sources de financement qui ne soient pas forcément que du financement public budgétaire pour pouvoir faire face au problème. Donc il y a tout un axe de travail d'ailleurs qui commence à réfléchir à ce qu'on appelle le fossé de l'ambition. C'est-à-dire qu'on n'attend pas 2030 pour se dire on a un problème. On sait qu'on va avoir un problème. Donc il y a tout un programme de travail avec et qui regarde secteur par secteur quelles sont les actions additionnelles que nous pourrions faire. Et nous avons d'ailleurs la chance de coordonner ce programme de travail non seulement pour l'Afrique mais pour les 136 pays en développement.
Et dites-moi, vous qui êtes négociateur,
oui. Michael Jean qui prend la place de l'intervieweur, allez-y, je vous en prie.
C'est une question qui me brûle un peu parce que il est en contact avec tous ces décideurs, il voit les intentions de bouger ou pas. Donc, est-ce que vous sentez vraiment qu'il y a une espèce de désir chez les décideurs de faire preuve d'un peu plus de leadership politique, environnemental et climatique? On les entend vraiment chargés de très très bonnes intentions, mais est-ce que vous avez l'impression qu'ils auraient presque envie de s'enorgueillir et de dire, bon voilà, nous montrons notre volonté, nous allons montrer aussi que nous sommes capables de prendre des décisions courageuses et responsables.
Je pense que ça arrive. La semaine dernière, par exemple, l'annonce chinoise pour 3 milliards de dollars pour les pays en développement, je pense que c'est historique. La Chine a été énormément critiquée ces dernières années.
Et la création d'un marché carbone
exactement.
Également.
Donc je pense que ça c'est un point pour l'Afrique. Mais au-delà de la volonté politique, il se fait qu'il y a encore un certain nombre de barrières qui n'existent. Il n'y a pas un cadre d'incitation fiscale ou même financier au niveau global pour pouvoir justement acter cette volonté-là. Donc il y a une sorte de décalage entre la volonté politique et exactement les systèmes qui existent. Je vais prendre un exemple tout simple.
Très rapidement, s'il
vous plaît. Très rapidement. Tous les pays d'Afrique subsaharienne ont ce qu'on appelle un cadre de partenariat avec le Fonds monétaire international. Dans ce cadre, il y a ce qu'on appelle une évaluation de la soutenabilité de la dette. Et tout le monde sait que les investissements dans les énergies renouvelables coûtent plus cher que les investissements dans les énergies fossiles. Mais dans le cadre de cette évaluation de la dette, il n'y a pas une discrimination positive.
Mm-hmm. À l'égard des investissements dans le secteur vert.
Si l'FMI décidait, par exemple, qu'on permette aux États africains de s'endetter pour pouvoir justement avoir accès aux technologies vertes, ça pourrait avoir un effet d'entraînement qui soit pratiquement immédiat. Donc voilà, il y a des volontés, il y a une volonté politique qui s'affiche, mais il y a encore un certain nombre de barrières globales ou régionales qu'il faut adresser pour qu'effectivement cette volonté se concrétise.
Eh bien voilà une belle idée pour le FMI. Pardon, on ne peut pas en dire plus, on va devoir en rester là. Et on verra la contribution de la francophonie lors de la COP 21 qui se déroule à Paris du 28 novembre au 11 décembre. Sachez en attendant que d'ici une dizaine de jours à Yerevan en Arménie, lors de la conférence ministérielle de la francophonie, une résolution sera adoptée sur la COP 21. Merci de votre présence à tous. Michael Jean, secrétaire général de la francophonie, Céline Afo, porte-parole des 54 pays d'Afrique à la COP 21, et vous, Claire Chitecat, vous êtes jeune franco-suisse, et Yannick Naré, burkinabé. Bonsoir.
Débat que vous retrouvez sur notre site internet. Merci à Anne Corpé et à ses invités. Demain, à l'occasion de la Nuit Blanche à Paris, le débat se demande si Paris est toujours la capitale de la culture. Bonsoir à tous. Un nouveau journal sur RFI dans quelques secondes.